Merci d'écouter RFI. Il est 4h à Paris, 2h en temps universel.
Mathis Limano.
Une cinquantaine de dirigeants attendus dès aujourd'hui à Nice. La ville de la Côte d'Azur accueille toute la semaine la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Rendez-vous crucial pour la protection des fonds marins ou encore la sauvegarde des espèces marines. On revient sur les enjeux de cette conférence en début de journal. Israël dit avoir dérouté le Madlin, bateau humanitaire qui prenait la route pour Gaza. Tel Aviv assure que les 12 personnes à bord sont redirigées vers les côtes israéliennes et qu'elles devront ensuite rentrer dans leur pays. Également à la une, la polémique en Côte d'Ivoire provoquée par une chemise arborée par l'ambassadeur de France. Explication à suivre. Et puis c'est un moment historique au Brésil. L'ancien président Jair Bolsonaro comparé à partir d'aujourd'hui pour tentative présumée de coup d'État à la fin de son mandat en 2022. Et top départ aujourd'hui à Nice de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, une conférence co-organisée par la France et le Costa Rica. Une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement. Parmi eux, par exemple, le président brésilien Lula. Les États-Unis, eux, brillent par leur absence. Le premier domaine maritime au monde n'envoie pas de délégation. Pauline Glaise, dans ce contexte, quel est l'enjeu, quels sont les enjeux de cette conférence qui se déroule toute la semaine?
Pêche illégale, pollution plastique, exploitation minière des fonds marins. La liste des sujets abordés lors de cette une octroi est longue, mais il ne devrait pas faire l'objet d'un accord formel de l'ensemble des pays. Emmanuel Macron y voit plutôt un moment de mobilisation. Le projet de déclaration politique, déjà négocié, reconnaît d'ailleurs que l'action ne progresse pas à la vitesse requise. Si ce texte est jugé peu ambitieux par certains observateurs, la conférence doit surtout déboucher sur un plan d'action de Nice pour l'océan. Il comprendra également les engagements par pays. L'un des enjeux majeurs, ce sera le nombre de ratifications du traité de la haute mer pour une protection des écosystèmes dans les eaux internationales. Les 60 nécessaires à son entrée en vigueur ne devraient pas être formellement déposés, mais des engagements fermes seront pris, de quoi faire dire à Emmanuel Macron qu'il y aura suffisamment de ratifications d'ici septembre. Cette une octroi est également l'occasion d'avancer sur les négociations pour un traité contre la pollution plastique. Enfin, le Costa Rica, co-organisateur, espère 100 milliards de dollars de nouveaux financements. L'océan est le moins bien financé des objectifs de développement durable de l'ONU. Pauline Glaise, Nice. RFI.
Nice où RFI se délocalise, édition spéciale à partir de 6h temps universel puis 11h TU autour des enjeux de cette 3e conférence des Nations Unies sur l'océan. Israël dit avoir dérouté le Madlin, le bateau humanitaire de la flottille de la Liberté. Parti de Sicile le 1er juin, son équipage entendait accoster à Gaza avec de l'aide humanitaire. Tel Aviv assure que les 12 personnes à bord sont redirigées vers les côtes israéliennes et qu'elles devront ensuite rentrer dans leur pays. Parmi elles, l'eurodéputée insoumise Rima Hassan, le chef de file de LFI Jean-Luc Mélenchon dénonce une arrestation illégale et appelle à des rassemblements partout en France. Aux États-Unis, les gouverneurs démocrates dénoncent un abus de pouvoir alarmant. La garde nationale est en cours de déploiement dans les rues de Los Angeles. Donald Trump a fait appel à cette armée de réserve pour rétablir l'ordre. Ces derniers jours, des manifestations contre la politique migratoire du président américain ont dégénéré avec les forces de l'ordre. Donald Trump s'est dit prêt à envoyer des militaires dans le pays partout où ce sera nécessaire. Et puis en Colombie, une centaine d'enquêteurs cherchent à identifier les commanditaires de l'attentat contre Miguel Uribe. Lors d'un meeting, un individu a ouvert le feu sur le candidat à la présidentielle colombienne. Touché deux fois à la tête, Miguel Uribe se trouve dans un état critique, d'après les médecins. C'est une chemise en pagne qui crée la polémique en Côte d'Ivoire. Celle de l'ambassadeur de France photographiée avec le vêtement à l'effigie de Dominique Ouattara, l'épouse du président Alassane Ouattara, lors d'une cérémonie officielle. Dans une déclaration publiée en ligne ce week-end, le PPACI, le parti de l'opposant Laurent Gbagbo, fustige l'attitude du diplomate et se demande si la France a choisi déjà son candidat pour la présidentielle 2025, Benoît Almeras.
Le 31 mai dernier, Dominique Ouattara inaugure le lycée d'excellence de jeunes filles de Cinématiali dans le nord du pays. Parmi les officiels, l'ambassadeur de France, comme la plupart des invités, Jean-Christophe Béliard porte une chemise en pagne violet qui montre le visage souriant de la première dame. Un message est inscrit « Merci maman Dominique Ouattara ». Pour le PPACI, c'est le signe du soutien de la France au camp du président ivoirien Alassane Ouattara, Habiba Touré, porte-parole du parti d'opposition.
Vous avez l'ambassadeur de France qui se drape dans un pagne à l'effigie de l'épouse du président du RHDP, à savoir M. Alassane Ouattara, ce n'est pas rien. Toute action va donner lieu à une interprétation politique. Nous sommes en Côte d'Ivoire, un pays quand même qui a une histoire douloureuse avec le processus électoral. Pour le PPAC, un diplomate ne devrait jamais faire ça.
Pour le directeur de communication de la Fondation de la Première Dame, le pagne est un cadeau des villageois de Siné Matiali. Il rajoute « La Fondation fait dans le caritatif, elle ne fait pas de politique ». L'ambassade de France ne souhaite pas réagir pour le moment. Une source rappelle tout de même que Jean-Christophe Béliard et Laurent Gbagbo se sont déjà parlé pendant 2 heures. C'était chez l'ancien président en novembre dernier, une rencontre cordiale d'après les présents. Benoît Almeras, Abidjan, RFI.
En Malaisie, ce dramatique accident de la route, 15 personnes ont été tuées dans une collision entre un autobus transportant des étudiants et un minivan. Ça s'est passé au nord du pays, proche de la frontière avec la Thaïlande, rapportent les médias locaux. RFI, 23h06 à Brasilia. C'est un moment historique qui se profile au Brésil. Un ancien président devant la Cour suprême, Jair Bolsonaro, comparé à partir de ce lundi dans le cadre de son procès pour tentative présumée de coup d'État, c'était à la fin de son mandat en 2022. En cas de condamnation, l'ex-dirigeant d'extrême droite pourrait passer beaucoup de temps derrière les barreaux à Rimlipold.
Jair Bolsonaro est accusé d'avoir tenté un coup d'État fin 2022. Quelques mois auparavant, il avait perdu l'élection présidentielle face à Lula. Un rapport de 900 pages détaille le plan présumé. Il y était question d'instaurer un état de siège, mais aussi d'assassiner Lula. Faute de soutien au sein du commandement militaire, le coup d'État n'a finalement pas eu lieu. Mais Jair Bolsonaro est aussi accusé d'avoir été à l'origine des émeutes du 8 janvier 2023. Ce jour-là, des milliers de sympathisants ont envahi et partiellement saccagé le Congrès, le palais présidentiel et la Cour suprême à Brasilia. Pendant les 2 premières semaines du procès, une 50aine de témoins ont été entendus en visioconférence. D'anciens militaires haut gradés ont confirmé la tentative de putsch. Jair Bolsonaro, lui, nie toutes les accusations qu'il compare à un scénario de telenovela. Il se dit victime d'une persécution politique. En cas de condamnation, l'ancien président encourt une peine pouvant aller jusqu'à 40 ans de prison. Le verdict de ce procès historique est attendu dans quelques mois.
À Rimlipold, assurément la plus longue et certainement la plus intense et la plus folle finale de Roland-Garros. Après 5h29 d'un combat homérique, Carlos Alcaraz a conservé hier sa couronne parisienne en terrassant le numéro 1 mondial en 5 manches. L'Espagnol qui a sauvé 3 balles de match consécutives dans le 4e set avant de renverser la situation à l'issue d'une finale qui atteint des sommets en termes de rebondissement et de qualité de jeu. L'ancienne numéro 1 mondiale et quadruple lauréate de Roland-Garros, Justine Hénin, en est restée bouche bée au micro d'Éric Mamrut.
C'est vraiment complètement dingue ce qu'on a vécu. On a tout eu. On a vu un, puis on a vu l'autre, puis on s'est dit que ça pouvait être encore l'autre, là, qui allait retourner la situation. Et puis il y a cette folie, cette magie qui émerge. On a un numéro 1, un numéro 2 qui sont exceptionnels, qui vont nous offrir des très grands rendez-vous. Ce ne sera pas à chaque fois comme celui-là. Il ne faut pas non plus toujours espérer qu'on va pouvoir partir dans de telles sphères. Mais quand ça arrive, on savoure. C'est au-delà des mille tennis, en fait. Et c'est vrai qu'on a tout eu d'Alcaraz aujourd'hui, avec ses hauts et ses bas, tel qu'il peut nous le montrer. Mais avec cette dimension-là aussi, qui fait que c'est un homme des grands rendez-vous. Quand il est dos au mur, le bras ne tremble pas, ou peu. Mais la fierté qu'il a aujourd'hui, c'est d'être revenu d'aussi loin. Il défend son titre, un 5e majeur, là, à son âge. On s'incline et puis voilà, il nous transporte, Carlos Alcaraz. Il n'y a pas une plus belle vitrine que lui et la magie de son jeu aujourd'hui.
Carlos Alcaraz qui reste invaincu en 5 finales de Grand Chelem. Yannick Sinner a lui connu sa première défaite après 3 finales de majeur remportées. À Munich, ce sont les Portugais qui ont soulevé le trophée de la Ligue des Nations. Après une séance de tirs au but, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, encore buteurs, se sont imposés sur les Espagnols tenants du titre. Les Français, eux, accrochent le podium en battant les Allemands 2-0. Et puis, privé de son brassard de capitaine, Robert Lewandowski qui annonce renoncer à la sélection polonaise. À 36 ans, l'attaquant du FC Barcelone fait part de brouilles avec son entraîneur. « Je me mets en retrait tant qu'il sera en poste », a écrit Robert Lewandowski sur son compte X. RFI, il est presque 4h10 à Paris, 2h10 en temps universel. C'est de loin l'émission la plus proche. Tout de suite, retrouvez le Club RFI sur la radio du monde. L'actualité revient dans un peu moins d'une heure avec Diane Berger.